Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
Voilà, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus ce matin. Alors, je ne sais pas si ça transparaît en lisant ce texte, mais finalement, ce texte aurait pu être une vibrante plaidoirie. Ou alors, peut-être pire, un fastidieux traité de théologie. Parce qu'en effet, ce qui ne transparaît pas de prime abord dans ces quelques versets, c'est que Jean, en fait, ici réfute des fausses doctrines. Et pas une fois, mais trois fois. Trois reprises différentes. Il répond donc à des faux docteurs. Et vous savez, comme moi, que cet exercice, parfois, peut être un peu virulent. Au lieu de cela, Jean met en perspective les bases de la vie d'un disciple de Jésus, d'un côté, avec l'absolu de Dieu, de l'autre, sa nature divine, pure et parfaite. Et ce qui est magnifique ici, c'est de considérer la manière avec laquelle Jean met en cohérence ces éléments, à partir, c'est un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois, par Trevor, donc, à partir de ce qu'il a compris des moments partagés avec Jésus. Donc Jean ne plaide pas la vérité d'une façon magistrale, quelque part, mais il se fait simplement l'écho de ce qu'il a appris de Jésus. Jean était un témoin oculaire de la vie de Jésus, il a vécu avec lui, et ce qu'il a appris de lui vient directement et réellement de Jésus. Ce qu'il annonce, c'est ce qu'il a vraiment entendu de Jésus. Jean a écouté, il a compris, il en est le reflet dans sa vie, et il le transmet par sa parole, notamment par donc, ce passage. Alors, dans ce passage, Jean décrit un cheminement. Il décrit un parcours que tout disciple de Jésus est amené à vivre, mais également peut annoncer. Ce qu'il a vu, il l'a vu, et ce qu'il a entendu, il l'a entendu. Et ça, pour lui, pour Jean, ce n'est plus une attente, ce n'est plus une espérance, c'est la réalité qu'il a comprise intellectuellement, mais surtout qu'il vit au quotidien et qu'il annonce. Et ce passage, déjà en introduction, nous encourage à proclamer la réalité de Dieu. Et la réalité de Dieu, c'est avant tout celle que je vis dans mon quotidien, celle que Dieu lui-même me fait vivre. Je sais que Dieu existe parce que je sais qu'il me parle, je sais qu'il me conduit, je vois comment il me conduit, je vois comment il me transforme, comment il transforme la vie aussi des autres chrétiens. Ce que j'ai vécu, personne ne peut le contester, le nier, le contredire. Alors c'est vrai que notre foi ne sera vraiment complète qu'après la rencontre avec notre Seigneur, mais certains aspects de la foi, nous les vivons déjà, nous en sommes déjà au bénéfice, et ça ce sont des certitudes, des choses que pour nous-mêmes on ne discute plus. Et finalement, quoi de plus puissant encore aujourd'hui pour nous que le témoignage simple de ce que Dieu fait dans la vie de chaque croyant. Nous sommes encouragés, comme Jean l'a été en annonçant la parole ici dans ce passage, nous sommes nous aussi encouragés à être le reflet de ce que nous avons vécu par Christ et aussi de proclamer ce message de vie, de la vraie vie. Alors Jean nous propose donc un parcours, un cheminement pour la vie avec un grand V. Et dans ce passage, deux éléments sont fondamentaux. Le premier élément, c'est que Dieu est lumière, et ça guide finalement tout le passage, tous les versets qu'on a lus. Et le deuxième élément, c'est que nous pouvons marcher vers Dieu, car Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. En quelque sorte, donc, Jean présente un absolu, Dieu est lumière, et aussi une volonté qui doit répondre à cet absolu. On va voir comment, la nôtre, celle de marcher avec Dieu, et grâce à un moyen, la réconciliation avec Dieu, en s'appropriant, en quelque sorte, le sacrifice de Jésus pour nous-mêmes. Voilà, nous allons donc aborder ces deux éléments. Et le parcours dont on a parlé me rappelle celui d'un randonneur en haute montagne. Alors, pourquoi un randonneur fait tant d'efforts pour aller notamment en haute montagne? Je sais qu'il y avait parmi nous des randonneurs qui ne vont pas forcément tout le temps en haute montagne, malheureusement. Mais en tout cas, la haute montagne a un élément évidemment qu'il n'y a pas dans la plaine, c'est le sommet. Le randonneur, il est motivé par le sommet. Pourquoi ? Parce qu'au sommet, c'est là qu'est la lumière, c'est là qu'est le panorama, c'est là qu'est l'absence d'obstacles pour voir quelque chose de magnifique, de presque magique. On voit cette image. Alors pour cela, bien sûr, il doit marcher, il doit endurer des risques, il doit faire des efforts, notamment quand on fait vraiment de la haute montagne. La dernière étape, on l'a fait en partant de nuit, très très tôt, justement pour arriver à la lumière, en pleine lumière, et pour pouvoir redescendre d'ailleurs avant la nuit suivante. C'est vrai que ce randonneur aussi, s'il n'a pas prévu de quoi surmonter les chutes, s'il n'est même pas conscient qu'il peut chuter éventuellement, ou qu'un imprévu peut arriver, en montagne les orages notamment sont méconnus, alors il est perdu. Oui, Dieu est lumière. C'est à la fois un absolu, infaillible, constant, éternel. Mais cette notion, finalement, pourrait nous donner le vertige, faire qu'on pourrait se méfier de Dieu. Cette notion pourrait nous angoisser. Pourtant, on va le voir dans ce passage, la lumière de Dieu, c'est bien justement ce qui doit nous attirer. Alors nous pousser aussi parfois un peu, mais en tout cas nous motiver sur le chemin de la vie avec un grand V. Rappelez-vous, la semaine dernière, la vie abondante promise par Dieu. Pour avoir la motivation de grimper au sommet, hein, notre randonneur, c'est très bien la puissance, la supériorité, l'élévation de ce qu'il va y trouver, révélée par une lumière intense. Et surtout, cette lumière est inimaginable vue d'en bas. C'est très difficile vraiment de réaliser l'intensité de la lumière de ce qu'on va voir en haut quand on est toujours en bas. Alors, d'une manière peut-être plus terre à terre, comme tous les êtres vivants, hein, nous, donc chaque être humain, mais chaque être vivant aussi, hein, nous sommes dépendants de la lumière du soleil pour vivre et nous épanouir. Nos sommeils, nos rêves, notre thermie, notre appétit, notre forme physique, notre morale, tout cela est directement lié à la luminosité naturelle. Et j'aimerais ici attirer votre attention sur un fait, sur une association de deux notions qu'on retrouve dans ce passage, c'est la vie et l'épanouissement. Ces deux facteurs sont indissociables dans ce texte parce qu'ils décrivent justement Dieu tel qu'il est. Et d'ailleurs, sinon, si la vie n'était juste que la vie pour vivre, pour survivre, est-ce qu'on serait vraiment attiré par cela? Alors on va prendre un petit exemple qui est, je pense, assez parlant. C'est celui-ci, un petit poisson dans la mer. Alors ce poisson, il est magnifique. Ses coraux sont magnifiques, ils sont resplendissants, ils sont multicolores, parce qu'ils vivent en pleine lumière, et ils sont au bénéfice de ce milieu baigné de lumière. Il reflète d'ailleurs aussi tel ou tel aspect de la lumière. Alors vous avez ici un autre poisson, mais lui aussi il est vivant. Ce n'est pas un poisson qui est mort. Mais, comme vous le remarquez, il vit sans lumière. C'est un poisson des grandes profondeurs. Et sans la lumière, eh bien voilà, décharné, pas de couleur. Il reflète que l'ombre de lui-même. Encore, il faut l'éclairer. Alors oui, c'est vrai, la lumière, elle épanouit. Et par cela même, nous sommes attirés par la lumière. La lumière, elle éclaire, elle illumine, elle réchauffe aussi. Et elle révèle, ce que nous allons voir aussi. Alors, c'est intéressant à ce stade de voir que Jean ne décrit pas Dieu simplement comme ayant une lumière supérieure ou apportant une lumière qui révèle quelque chose de mieux ou de bien, mais c'est un absolu. Dieu est lumière. Et vous le savez certainement, cette attribution à Dieu se retrouve dans d'autres domaines, comme l'amour. Dieu, oui, nous aime, il a de l'amour, mais Dieu est avant tout amour. Il est amour. Et cela change tout, parce que ça implique le fait que Dieu, oui, est amour, ou est lumière, mais il sera toujours amour et il sera toujours lumière. Pardon. Alors nous, en tant qu'humains, nous sommes dépendants de nos faiblesses, de notre caractère, de notre humeur du moment, des circonstances aussi. Mais pour Dieu, il n'en est pas ainsi. Il est amour, il est lumière. Qu'appliquer exactement au fait que Dieu est lumière ? Alors, dans la Bible, la lumière est appliquée principalement à trois notions : la pureté, la justice, la vérité. La pureté de Dieu est incompatible avec toute notion de péché le concernant. Et on doit déjà bien réaliser, bien comprendre la séparation entre un Dieu saint d'un côté et notre nature pécheresse d'être humain de l'autre. Et même, on peut dire que finalement la relation que Dieu a entretenue avec l'homme comporte continuellement une souffrance pour lui, quelque part, en voyant le péché des hommes se répandre et ses conséquences. Même quand l'être humain pense être bon, pense même vivre parfois selon les commandements de Dieu, cette séparation néanmoins demeure. Un exemple dans la parole, dans Josué qui a fort affaire pour faire comprendre au peuple d'Israël qu'honorer la sainteté de Dieu ne se cantonne pas à de belles promesses. Nous irons donc dans Josué 24:16. Le peuple répondit et dit « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. » Josué dit au peuple « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. » Alors c'est vrai, ce constat est sévère dans ce passage. Alors nous connaissons la suite, ce passage ne s'arrête pas là non plus. Mais la pureté de Dieu nous amène justement d'une manière logique à la justice de Dieu. Dieu est justice. Et il fustige donc ceux qui composent avec une justice toute relative, toute humaine, et donc toute fluctuante, et guidée par l'intérêt du moment. Dans Ésaïe 5:20, nous lisons « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la douceur en amertume. » Alors le roi David, on le voit dans de nombreux épisodes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais avait bien compris le sens de la justice de Dieu, parce qu'il avait compris qu'elle n'est pas le fruit d'un dictateur, mais bien du Dieu créateur de tous. Aux yeux du, duquel tous ont la même valeur et auquel il applique donc à tous cette même justice. Et la justice de Dieu n'est pas là pour détruire, elle n'est pas là même pour condamner. La justice de Dieu justifie le juste selon la fidélité et les promesses de Dieu. Alors, un jour que le roi Saül, pour d'obscures raisons que vous connaissez certainement, poursuivait celui qui allait bientôt prendre sa place, désigné par Dieu lui-même, David donc, David aurait pu lui ôter la vie, Saül dormant dans une grotte. David se contente de découper un morceau de son manteau, de prélever aussi sa lance. Il se tient un peu à l'écart et il réveille tout le monde. Samuel 26-22, on va lire ce qui se passe. David répondit, « Voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. » On voit dans ces quelques versets que David fait confiance à la justice de Dieu. Elle ne l'angoisse pas en tant que telle. Il ne fait pas confiance d'ailleurs à sa propre colère, et nous savons, si nous connaissons les récits de la vie de David, qu'il était un petit peu colérique, un petit peu énergique, qu'il avait aussi son caractère, ses propres forces. Mais il ne comptait pas là-dessus pour prendre le trône à Saül. David sait, il l'exprime ici, que sa vie a un grand prix aux yeux de Dieu et que sa justice, donc la justice de Dieu, s'appliquera face à l'injustice de Saül. Et justement, la justice de Dieu n'angoisse pas David. Et c'est intéressant de noter que la justice de Dieu, au contraire, il y met son espoir pour être délivré de ses propres angoisses. Il a donc une espérance dans la justice de Dieu, dans le fait que Dieu est juste. Mais la lumière de Dieu, c'est également la vérité. Alors la vérité, c'est une notion qui est plus large que la pureté, plus large que la notion de justice. Ces dimensions sont supérieures. Et peut-être c'est un peu plus difficile encore pour nous de comprendre dans son absolu ce qu'elle représente en tant qu'attribut de Dieu. Encore une fois, Dieu ne possède pas seulement la vérité, il est vérité. Et cette lumière est presque trop aveuglante pour que nous la supportions. Notre vérité à nous, elle est tellement limitée, conditionnée par des facteurs externes, culturels, anciens, pour lesquels nous ne pouvons rien, mais également par tant de facteurs que nous maîtrisons si bien. Notre vérité, nous la faisons varier dans nos paroles, surtout dans nos pensées. Nos raisonnements sont empreints de la vérité que nous leur appliquons les uns aux autres, et parfois d'une manière contradictoire. Et finalement, la contradiction de notre vérité à nous, on la supporte pas si mal. Alors nous avons besoin de recentrer nos pensées sur la vérité de Dieu lui-même, et pour cela je vous propose comme exemple une prière justement que David fit à Dieu, dans psaume 25, verset 4, un verset bien connu, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Alors vous remarquez que cette prière confiante dans la révélation de la vérité de Dieu, elle est conditionnée par David à sa marche en tant qu'homme sur son sentier, avec donc un besoin d'être conduit. Et donc ça nous rappelle des éléments qu'on trouve dans notre passage d'aujourd'hui, dans 1 Jean. Bien sûr, dans la Bible, on voit quelqu'un qui parle souvent de vérité. Cette personne avait même tendance à commencer ses propos par une formule « en vérité, je vous le déclare ». Alors c'est vrai que le regard profane pourrait y voir qu'une expression insistante, typiquement orientale peut-être. Mais à y regarder de plus près, quand Jésus utilise cette formule, eh bien c'est justement pour renverser la vérité relative, souvent insignifiante, parfois pleine de bons sentiments, mais de suffisance aussi, de la logique humaine, représentée dans des circonstances très différentes, avec des types de personnes très différentes aussi. Deux exemples, Matthieu 18, 3. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Ce n'est pas très logique sur notre vérité, par rapport à notre vérité à nous. Deuxième exemple, Matthieu 21, 31. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Parlant donc d'un publicain et d'un pharisien qui priait Dieu, de quelqu'un qui était sincère, qui se repentait, et de quelqu'un qui était dans ses habitudes, dans sa tradition. Ils répondirent le premier. « Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Vérité qui n'est pas non plus selon notre logique. Alors pour nous, disciples de Christ, nous aussi on peut en prendre pas mal dans les paroles de Jésus qui suivent cette formule en vérité. Un exemple, Matthieu 11, verset 11. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » La vérité de Dieu, c'est vrai, dépasse bien souvent notre entendement. Mais curieusement, et ce qui nous intéresse d'autant plus ce matin, pour la troisième fois finalement, Jésus va aussi lier la vérité au chemin de la vie, et même au but de la vie, à son accomplissement dans toute la dimension d'amour et d'épanouissement que Dieu a prévu pour chaque personne, pour chacun, pour chaque femme, pour chaque homme, pour chaque enfant également. Jean 14, verset 6, un passage bien connu. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Trois éléments qu'on retrouve dans le passage de Jean. « Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors, cette déclaration lourde de sens est peut-être une source d'inspiration pour Jean. On y trouve une démonstration que Dieu et Jésus ne sont qu'un. Que Jésus, par conséquent, est Dieu lui-même. Jésus, tout comme son Père, est la vérité. Ce qui va donc, vous l'avez compris, bien au-delà du fait de dire la vérité, simplement. Il est le chemin. Tandis que Jean, justement, nous propose de marcher dans la lumière de la vérité, celle de Dieu. Enfin, Jésus est la vie, il le dit. Et ça, c'est à mettre en perspective avec le fait que le sang de Jésus, c'est justement cela qui nous rend la vie, pour marcher sur le chemin de la vérité vers Dieu lui-même. Et donc cet aspect est mentionné dans notre passage au verset 2 du chapitre 2, il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, si j'ose m'exprimer comme ça, pour nous aider à mieux comprendre, et pour reprendre notre randonneur, là où on l'avait laissé, c'est-à-dire dans la nuit, il commence son ascension vers le sommet, vers la lumière. Dieu représente, alors ce n'est qu'une image, c'est un petit peu restrictif comme toute image, mais on peut y prendre quand même quelque chose. Dieu représente quelque part la lumière du soleil levant, la lumière du soleil qui illumine le panorama, qui illumine le sommet, qui illumine toute la vision future en quelque sorte, de toute l'espérance de ce randonneur. Cette lumière-là, elle est invariable, elle est infinie et elle recouvre tout. Alors Jésus, bien sûr, est de la même nature que cette lumière-là, il est Dieu lui-même, mais c'est lui, par son sacrifice, comme nous venons de le voir, qui nous conduit, qui nous permet finalement de cheminer, qui nous amène vers le sommet. Alors, Elle ne peut nous y conduire, cette lumière, que si nous acceptons d'être accompagnés par la lumière. Cette lumière qui a été brisée par nous, pour venir jusqu'à nous, pour venir nous chercher et nous conduire auprès de Dieu. Il est donc ici question d'un choix. Marcher dans la vie, bien sûr, tout le monde le fait, tant bien que mal, plus ou moins. Mais notre randonneur, ici, vous voyez l'image est un petit peu impressionnante peut-être, lui, il a un objectif, il a une direction, parce qu'il a un espoir d'enchantement, ce sommet, cette lumière. Donc son choix, c'est de marcher, de se laisser diriger par la pente, parce que le sommet, c'est toujours en haut, malgré les efforts et le danger que cela implique. Mais il doit surtout se fier à un instrument fiable, une boussole, une carte. Et dans la nuit, donc départ de l'ultime expédition vers le sommet, tout cela, y compris son instinct, y compris son expérience, son équipement, tout cela ne lui serve à rien tant qu'il n'a pas de lumière pour éclairer son chemin. Et vous voyez que par rapport à la majesté de la première image qu'on a vue, pour l'instant, son chemin, il paraît bien court. Alors c'est vrai, si Dieu est lumière, il ne contient aucune ombre. Et cette affirmation tranchante pourrait conduire à une impasse dans notre relation avec Dieu, à cause de ce que nous sommes, des hommes pécheurs. Mais Jésus, justement, est lumière. Il est la lumière du monde. Sa sainteté, son amour, respiraient la sainteté et l'amour du Père. Jésus est la face visible du Dieu invisible, la révélation parfaite de la volonté, de la communion entre Dieu et nous. Au verset 7 de notre passage, Jean transpose cette communion entre le Père et le Fils, à la communion entre nous, ses disciples. Alors, on peut relire ce verset, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors, pour être en réelle communion les uns avec les autres, d'après ce passage, il n'est pas nécessaire d'avoir les mêmes goûts musicaux, la même passion pour les hauts sommets, peut-être certains ont horreur de la randonnée. Il n'est pas nécessaire d'être fan du même club de foot ou d'admirer la même voiture. Non, la communion entre nous, voulue par Dieu, révélée par Jésus, entendue et comprise par Jean, celle qu'il déclare ici, celle qu'il annonce, c'est de marcher ensemble sous la lumière de Dieu. Alors, à ce stade, finalement, quelle impression nous donne la lumière de Dieu ? Nous sentons-nous écrasés par cette lumière ? Avons-nous envie de plier le camp et de redescendre vite dans la vallée ? Ou est-ce qu'au contraire, on se sent attiré, on se sent subjugué par la lumière ? Oui, j'ai parlé de choix tout à l'heure, et nous pouvons, grâce à Jésus, comme nous l'avons vu, choisir de nous lever et de grimper. Même si pour l'instant, dans notre esprit, c'est cette image de la nuit, du départ qui est là. Évidemment, c'est ce que Dieu veut. Et il le veut tellement que Jésus a été sacrifié pour que nous aussi, nous puissions marcher dans la lumière. Et chose plus surprenante encore, un niveau encore supérieur, c'est que la lumière de Dieu nous inonde également. Elle éclaire notre vie des mêmes attributs que ceux qui constituent notre Créateur. Il ne s'arrête donc pas à notre nature, à nos limites, à nos faiblesses, pour nous appeler à lui. En quelque sorte, c'est sa grâce absolue pour laquelle nous ne pouvons rien. Dieu nous aime, il est comme ça. Rien ne sert, c'est ce que dit ce passage, par conséquent, de nier nos péchés. Mais bien au contraire, de nous en débarrasser, confiant dans son accueil et dans son pardon. Et je rappelle qu'ici, Jean s'adresse à des disciples de Christ, hein, et non pas à des païens. Alors, si nous voulons marcher avec Jésus le long du chemin de vie, il nous faut nous laisser éclairer par cette lumière de pureté, de justice et de vérité. Alors, non, Jésus ne nous porte pas, enfin, en tout cas, pas tout le temps. Notre randonneur aurait pu aussi bien monter en hélicoptère, mais non. Mais Jésus nous accompagne, fidèlement. D'où notre besoin de communion avec lui, pour pouvoir marcher ensemble, lui et nous. Jean en expose ici une condition d'une manière claire. Nous ne pouvons pas être en communion avec Dieu si nous refusons d'être éclairés par la lumière de son esprit. Hébreux 4, versets 12 et 13. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, il est vrai que nulle créature n'est cachée devant Dieu et qu'un jour, chacun devra lui rendre compte. Mais pour nous, qui avons choisi d'être réconciliés avec Dieu, donc de marcher dès aujourd'hui avec lui, nous ne pouvons éviter la pureté de la parole de Dieu. Nous ne pouvons éviter le projecteur parfois terrible qui nous révèle nos pensées, nos actes, nos désirs, notre volonté, nos motivations, nos paroles entachées d'impureté, d'injustice, de mensonges, volontaires ou non, tout ce qui finalement nous sépare de Dieu. Alors, qui d'autre que Jésus peut aiguiser notre conscience jusqu'à reconnaître notre état de pécheur, mais également nos péchés, pas si rares que ça. Cela se fait par l'action du Saint-Esprit, et dans ce passage, Jean remet apparemment au goût du jour, à l'esprit de ses lecteurs, l'impossibilité d'être unis, d'être réconciliés avec Dieu, si nous vivons en se cachant de sa lumière. Si nous vivons dans l'insouciance que nous sommes pécheurs par nature, contre nature de Dieu, par conséquent, mais aussi si nous vivons sans remettre constamment en question notre conduite, par laquelle se révèlent bien souvent nos propres pensées, bien loin de celles de l'Esprit de Dieu. Dans certains pays, il existe des gratte-ciel qui sont si hauts, mais qui sont aussi construits si près l'un de l'autre, que quand on est en bas et qu'on regarde vers le haut, vous voyez ici, le ciel est bleu, le soleil brille, mais on voit très peu de lumière. Et on ne voit même pas le soleil. Et je constate dans ma propre vie que parfois je suis dans une communion finalement si faible, si restreinte avec Dieu, si distante, que je me laisse illuminer juste d'un tout petit bout de ciel bleu. Au lieu d'avoir un ciel libre, dégagé, le sommet de tout à l'heure, la lumière de pureté, de justice, de vérité. Chacun d'entre nous pouvons nous rentrer en nous-mêmes et considérer ce qui peut atténuer la lumière de Dieu dans notre vie. Marcher avec Dieu, ça change tout. Dieu nous attire à lui pour nous permettre de changer. Et par Jésus, nous avons cette opportunité de pouvoir changer. Échanger notre nature viciée par le péché contre une nature qui peut être en communion avec Dieu. Alors c'est vrai, quel chemin par exemple pour Jacob, ce menteur, ce voleur de bénédictions, ce roublard, jusqu'au moment où Dieu lui-même change son nom pour le nommer Israël, lutteur avec Dieu. Quelle marche aussi pour l'apôtre Paul, entre le moment où son zèle débordant le et en tout cas apparent, de ce qu'il avait compris de Dieu, le faisait persécuter des chrétiens, et où celui où Dieu le convie à croître en connaissance et à répandre l'évangile de par le monde. Cette marche de chaque instant dont parle Jean nous purifie et finalement nous fait profiter de la fidélité de Dieu. Elle s'exerce dans notre communication sincère, repentante, transparente envers lui, en avouant nos faiblesses, nos péchés. Alors, on peut être assuré que Dieu pardonne toujours et même régénère. La lumière, c'est la vie et c'est l'épanouissement. L'équilibre, dans ce passage, c'est la marche. Dans notre vie aussi. Le but, alors il peut paraître démesuré à notre échelle, c'est la sainteté, la lumière de Dieu qui inonde nos vies. L'accès, simple, mais qui réclame l'humilité de notre part, ne peut se faire qu'en suivant et qu'en étant accompagné par Jésus. Acceptons chacun notre condition de pécheur. Comprenons notre culpabilité. Confessions-lui notre état. Apportons à Dieu un cœur repentant. Alors nous réaliserons toute la dimension de la lumière de Dieu. Notre communion avec lui sera notre joie, notre force. Jésus plaidant nos chutes auprès du Père pour le pardon de tous nos péchés. Je terminerai avec un dernier verset. Il se retrouve donc dans Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen.